Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la céroïde lipofuscinose neuronale de type 2, ou CLN2, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Anne-Sophie Gaiman. Docteur Gaiman, bonjour.
Bonjour.
Docteur Gaiman, vous êtes pédiatre au sein du Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme de l'hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille. Et aujourd'hui, ensemble, on va aborder la prise en charge de la CLN2. Alors, pour débuter notre entretien, quels sont les enjeux du traitement de la CLN2?
Alors, je pense qu'on le verra tout à l'heure, les traitements sont multiples, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un traitement spécifique de la maladie par une enzymothérapie. Ce traitement spécifique de la maladie permet de diminuer la vitesse de dégradation neurologique qu'on observe chez les patients, voire de stabiliser l'enfant lorsque l'atteinte n'est pas encore présente ou lorsqu'elle est peu présente, lorsqu'on est au début des stades de la maladie. Elle n'a en revanche pas d'action sur l'atteinte visuelle, en tout cas a priori. Voilà un petit peu pour les grands enjeux de cette enzymothérapie.
Et au-delà de cette prise en charge spécifique, quelles sont les autres mesures thérapeutiques qui sont proposées aux patients touchés par cette maladie rare ?
Alors, très souvent, nos patients ont besoin d'un traitement médicamenteux, symptomatique, essentiellement sur le versant neurologique, puisque ce traitement va permettre d'essayer de contrôler l'épilepsie que certains patients peuvent présenter, parfois même l'agitation, les mouvements anormaux, les dystonies, les troubles du sommeil. Donc, ce sont des traitements médicamenteux, souvent prescrits par les neuropédiatres et qui sont très spécifiques à chaque enfant. En sus de cela, on peut avoir également d'autres mesures associées, comme un soutien nutritionnel qui dépend là encore de l'état neurologique du patient. Alors, ça peut aller de l'enrichissement calorique de l'alimentation qu'on donne par la bouche, avec parfois la nécessité de supplémenter par une nutrition entérale. Et puis, il y a des mesures également de rééducation. Ce sont des patients qui ont des atteintes neurologiques pour lesquelles il est important de mettre en place une rééducation qui peut être plus ou moins intensive, qui comprend très souvent de la kinésithérapie motrice, de l'ergothérapie, de la psychomotricité, de l'orthophoniste. Parfois également, ils ont besoin d'un appareillage qui leur est dédié, spécifique, en fonction de l'état de l'enfant, comme des attelles, un fauteuil, des installations en fauteuil, en lit. Et puis, dans les mesures associées qu'on aime bien rappeler également, il y a aussi toute la prévention des infections évitables, notamment par des vaccinations qui sont bien conduites à jour, y compris pour les vaccinations grippales.
Et en termes de suivi, docteur Gaiman, quel suivi préconisez pour ces jeunes patients atteints de CLN2?
Alors, le maître mot de notre suivi, c'est surtout la multidisciplinarité médicale, paramédicale, mais également à l'hôpital, dans des structures associées et en libéral. Au niveau hospitalier, très souvent, ces enfants sont donc suivis par un neuropédiatre référent, parfois par un pédiatre métabolicien comme moi, ça dépend des centres dans lesquels ils sont pris en charge. Il y a également l'ophtalmologue qui les suit de manière rapprochée parce qu'il y a une atteinte visuelle avec une dégradation de la vision chez ces patients. Ils ont également besoin d'avoir un neurochirurgien qui les connaît bien. Très souvent également, il y a un médecin physique et de réadaptation qui permet de coordonner toute la prise en charge rééducative et de prescrire les appareillages qui est dans la boucle. Bien évidemment, il y a le médecin traitant qui nous est d'une grande aide, qui connaît la famille, qui peut voir l'enfant parfois à son domicile. Et puis, ces enfants ont aussi parfois besoin d'avoir un gastropédiatre pour surveiller leur alimentation, pour prescrire la nutrition entérale, voire même un pneumopédiatre. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu médical à l'hôpital. Bien évidemment, donc il y a le médecin traitant qui est en libéral. Il y a aussi le médecin de réadaptation qui peut être sur des structures rééducatives, des structures adaptées telles que les services de soins et de réadaptation, dit SSR, les IEM ou les IME. Après, dans tout ce qui est paramédical, là encore, il va y avoir beaucoup de disciplines différentes. On va avoir besoin de tout ce qui concerne la rééducation avec, mais les kinés, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes qui font un travail formidable auprès de nos patients. Également, les équipes de soins de support, voire de soins palliatifs qui vont avoir un vrai rôle de coordination dans ces prises en charge multiples. Et bien évidemment, nos infirmiers, diététiciens, psychologues qui suivent les patients. Je vais insister aussi en disant qu'encore une fois, c'est une maladie qui est chronophage pour les parents, qui leur prend énormément de temps avec des suivis qui sont multiples, des évolutions qui sont incertaines. On n'arrive pas à prédire vraiment l'avenir pour nos patients. Donc tout ça, ça peut entraîner beaucoup d'anxiété chez les parents de nos patients. Donc le rôle du psychologue, il est là encore central avec un vrai soutien psychologique pour les parents et également la nécessité d'avoir des soignants référents vers lesquels les parents peuvent se tourner en cas de problème aigu. Et puis, je terminerai également par la prise en charge génétique, puisque c'est une maladie génétique pour laquelle il y a un risque de récurrence au niveau de la famille. Donc, les généticiens doivent pouvoir aussi accompagner la famille pour expliquer la maladie, les mécanismes, le risque de récurrence, mais également ce qui est très important pour être présent dans un projet de future parentalité pour les parents, pour pouvoir leur proposer, par exemple, un diagnostic anténatal.
Alors, la CLN2 est une maladie très rare et il existe en France un registre de suivi des patients touchés par cette maladie. Quel en est l'objectif ?
Alors, en effet, il existe un registre post-AMM auquel les pédiatres qui suivent les enfants et leurs familles sont invités à participer. L'objectif de ce registre, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, de valider qu'il y ait peu d'effets secondaires au traitement étiologique par enzymothérapie et dans un objectif secondaire, voir un petit peu comment évoluent les patients.
Alors, on arrive au terme de notre entretien, Dr Gaiman. Pour conclure, quelles sont les perspectives de recherche dans la CLN2 ?
Alors, aujourd'hui, il y a donc un projet de recherche sur les effets au long cours du traitement étiologique par enzymothérapie. Il y a également des projets de recherche de description de l'histoire naturelle des patients, de leur évolution psychologique, plutôt sur le versant des compétences et sur le plan neurologique avec ou sans traitement. Et également, on peut voir sur le site Clinical Trials un essai aux États-Unis sur l'enzymothérapie qui serait injectée dans l'œil, donc par une injection intravitréenne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de données publiées à vous démontrer. Voilà ce qui est aujourd'hui disponible. Il n'y a à l'heure actuelle pas d'essai thérapeutique chez l'homme pour une thérapie génique, mais on sait que c'est quand même des pistes sérieuses pour nos maladies génétiques aujourd'hui.
Eh bien, merci mille fois, Dr Gaiman, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la céroïde lipofuscinose neuronale de type 2, ou CLN2. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.